Merci à l'église du Tabernacle d'avoir invité l'ancien pasteur d'Ozoir-la-Ferrière, l'ancien pasteur de Farmoutier. Merci de m'avoir invité pour vous rejoindre ce matin, de redécouvrir cette église du Tabernacle qui nous est chère au cœur. C'est une joie d'être parmi vous et de pouvoir circuler le dimanche sans avoir des bouchons. Le stationnement, je ne vous en parlerai pas. Je me présente pour vous qui ne me connaissez pas. Je suis né en Angleterre. J'ai vécu 50 ans en France. Tiens, plus longtemps que la plupart d'entre vous. D'origine anglaise, donc, j'ai vécu en Bretagne 20 ans. Je suis un Breton d'adoption. J'ai vécu plus de 20 ans en Seine-et-Marne. Et j'ai été un temps aussi dans le conseil de l'association baptiste. Voilà donc le temps où nous voulons ouvrir ensemble la parole de Dieu et méditer un texte. J'étais très tenté de tout changer ce matin, parce que j'aime énormément le psaume 40 et j'aurais pu le méditer avec vous sans notes, juste une Bible. Mais non, je vais rester avec ce qui est prévu. Aujourd'hui, l'église est décorée. Nous décorons nos maisons. Nous commençons à faire des achats et les cultes spéciaux s'organisent un peu partout pour dimanche prochain ou pour les jours autour de Noël. C'est le troisième dimanche de l'Avent, ce mot traditionnel qui désigne la période qui est avant, A-N-T, la venue, l'avènement, E-N-T, l'Avent, de Jésus-Christ. Le troisième dimanche avant la fête de la naissance de Jésus-Christ, de sa venue. Et les mairies, ils y vont aussi. Ils font de leur mieux pour illuminer leur ville. Ils parlent plutôt de fête que de Noël. Ils évitent la plupart du temps des symboles trop chrétiens, peut-être une étoile, des anges, ça c'est plus délicat. Des ours polaires vont remplacer la crèche. Et tout cela, c'est Noël aujourd'hui. Je trouve que nous serions bien mesquins si nous reprochions à nos amis de se donner de la joie en ce moment. Et nous serions encore plus mesquins si nous critiquions les expressions de solidarité qui marquent ce temps. Je dis cela pour affirmer haut et fort, Noël, c'est bien. Et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on va lire un texte de l'Évangile qui, a priori, n'a rien à voir avec Noël. Je vais vous laisser deviner pourquoi en lisant sans trop d'introduction, Matthieu 11 au verset 2. Nous ne sommes pas tout à fait au milieu de l'Évangile de Matthieu, au tiers. Et Jean-Baptiste est en prison, Jésus exerce son ministère. Et voici la lecture qui est proposée dans de nombreuses églises aujourd'hui. Matthieu 11, verset 2. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Je lis dans la Bible du Semeur. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau agité ça et là par le vent ?»« Oui. Qui donc êtes-vous allé voir ? Un homme habillé avec élégance ?» Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. « Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? Un prophète ?» « Oui, assurément. » Et même bien plus qu'un prophète, c'est moi qui vous le dis, car c'est celui dont il est écrit, J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et, si vous voulez le croire, c'est lui, cet Élie, ce prophète Élie, qui devait venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Nous préparons donc Noël. Et voilà que Jean-Baptiste arrive dans l'église comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est que Jean joue l'ouverture de la grande symphonie de l'Évangile. Quatre évangiles. Dans l'Évangile de Marc, tout commence avec Jean-Baptiste au deuxième verset du premier chapitre. Il n'y a pas un mot sur la naissance de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, après ces belles lignes sur l'éternité et la divinité du Christ, verset 6 de Jean 1, Jean-Baptiste, sans un mot, sur Bethléem. Matthieu parle bien de l'annonce faite à Joseph, de la naissance de Jésus, il parle des mages, mais l'action de son évangile commence au chapitre 3, avec Jean-Baptiste. Et Luc fait très fort, parce qu'il raconte l'annonce faite à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avant de parler de l'annonce faite à Marie. Il raconte la naissance de Jean-Baptiste avant de raconter la naissance de Jésus. Il raconte le ministère de Jésus, il raconte le ministère de Jean-Baptiste avant de raconter le ministère de Jésus. Tout cela parce que Jean était le témoin de la lumière. Il était le poteau indicateur, le précurseur, celui dont il est dit qu'il préparera les chemins du Seigneur. Et ce témoin qui était Jean-Baptiste est cité dans les quatre évangiles, est cité par Jésus lui-même, cité par les Actes des Apôtres aussi. Il est absolument incontournable parce qu'il prépare le chemin de Jésus. Et je me demande si nous, maintenant, si nous lui donnons sa juste place. Il est relativement négligé comparé à l'importance qu'il a pour les évangiles. Comment prépare-t-il le chemin? Premier point, il prépare le chemin en faisant un appel très fort à ce que les gens se convertissent, un appel à la conversion. Il dit, changez, Bibus Summer, changez, car le royaume de Dieu est proche. Les plus anciennes traductions disent « Repentez-vous ». C'est peut-être la traduction dont vous avez l'habitude. Ça pourrait avoir dans les oreilles modernes l'inconvénient de laisser croire que Dieu ne demande qu'un élan de regret, de la tristesse. Et pour éviter cet inconvénient-là, d'autres traductions ont tenté de traduire « changer d'attitude ». Ce qui pourrait laisser croire qu'aucun changement dans nos actes n'est demandé. Puis on est revenu, on a réfléchi et on a proposé changer de comportement, ce qui laisse dans l'ombre nos motivations, nos attitudes. Je trouve intéressant que la Bible œcuménique de la Bible traduit « convertissez-vous ». Nous avons tout d'abord là le problème de la divergence des usages catholiques et protestants. Chez nous autres évangéliques, la conversion c'est le moment décisif où l'on se détourne du mal et se tourne définitivement vers Jésus-Christ, que l'on sache la date ou pas. Au milieu catholique, c'est cela, certainement, mais c'est surtout tout retournement qui nous fait quitter une voie mauvaise pour mieux suivre Jésus-Christ. Et donc, l'évangélique se convertit une fois dans sa vie, qu'il connaisse la date ou pas. Le catholique se convertit tous les jours. Vous êtes appelé à se convertir tous les jours. Le mot n'est pas utilisé dans le même sens dans ces deux milieux. Mais regardons le fond des choses. Nous disons tous que Dieu nous appelle à nous détourner du mal pour lui donner la première place. On le fait une première fois et on continue à le faire tous les jours. C'est un changement d'attitude, c'est un changement de comportement, c'est un changement profond qui doit se voir dans le long terme. Et chez Jean-Baptiste, ce premier pas de la repentance ou de la conversion, c'est que les gens reconnaissent leur péché, ils se font baptiser. Ensuite, Jean leur donne des consignes pour vivre droitement. Il faut que la repentance ou la conversion du cœur produise des fruits. Et il donne des exemples pratiques. Partager avec les pauvres, pratiquer des tarifs justes, ne pas user de violence pour gagner de l'argent, vivre avec un salaire légal. Changer. Maintenant, est-ce suffisant? Non. Parce que Jean disait autre chose, le deuxième volet de son message. Le royaume de Dieu est proche. Quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Tous ceux qui sont massés sur les rives du Jourdain, ceux qui attendent pour descendre dans l'eau, ceux qui en sortent, ils sont invités à regarder en avant, à vivre dans l'espérance, à compter sur quelque chose de plus et de mieux. Ils sont invités à attendre quelqu'un. Vous le savez, ce quelqu'un, c'est Jésus. Il s'est manifesté publiquement pour la première fois en venant se faire baptiser. Et Jean l'a désigné comme étant celui qui devait venir, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme celui qui baptise non pas avec de l'eau, mais avec l'Esprit. J'ai de la peine à croire que les convertis de Jean-Baptiste pouvaient se repentir de leur péché et commencer une vie nouvelle sans que le Saint-Esprit y soit pour quelque chose. Mais la venue de l'Esprit à la Pentecôte, c'était plus encore. Jean y associe un tri, un jugement, comme lorsque le propriétaire d'un verger coupe les pommiers qui ne donnent plus rien, comme lorsque chez nous, en Seine-et-Marne, la moissonneuse batteuse sépare les grains de blé de leur enveloppe et des tiges. Un tri. À l'époque, les Israélites croyaient qu'ils étaient tous de droit de la famille de Dieu, des enfants d'Abraham, comme ils le disaient. Mais non, il faut la repentance, il faut la conversion, il faut la foi en ce Messie qui vient, il faut l'Esprit. Et Jean le dit à mi-mot en parlant de Pierre, dont Dieu pourrait faire des enfants à Abraham. Jean le dit à mi-mot, le salut, la venue du Messie, le royaume qui vient, il est pour tous, même en dehors des descendants physiques d'Abraham. Deux volets dans son message. Changer, le royaume de Dieu est proche. Maintenant, essayez de vous mettre à la place de ceux qui écoutaient Jean. Vous avez devant vous un homme à l'air plutôt austère, sans doute maigre, habillé comme des prophètes d'autrefois. Vous l'écoutez et par lui, Dieu vous appelle à un changement de vie. Dieu vous appelle à porter votre regard sur celui qui vient. Dieu vous fait espérer la venue de l'Esprit-Saint. Et votre réaction? Eh bien, vous rejoignez ces gens, pas tous très fréquentables, qui attendent leur tour pour être baptisés dans le Jourdain. C'est un signe de purification, parce que vous savez que vous êtes pécheurs, vous le confessez même, et vous comptez sur Dieu pour mener une vie différente. Votre avenir, c'est désormais Dieu qui le dessine. Est-ce que c'est là la réaction de tous? Non, loin s'en faut. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc des religieux, des professionnels de la religion, si on peut dire, beaucoup d'entre eux se font baptiser, nous dit Matthieu 3. Mais Jean sait que leur conversion, entre guillemets, n'est que superficielle. Et pire, les autorités religieuses, les grands spécialistes de la religion, ceux de Jérusalem, viennent critiquer. Ils se tiennent à l'écart. Ils se disent que ce prédicateur populaire, c'est bon pour les foules, c'est bon pour le bas peuple, c'est bon pour les vrais pécheurs, mais pas pour des gens bien. Un prêtre, un pasteur, un professeur de religion, un ancien d'église peut être si imbu de sa personne qu'il tient Dieu à distance. C'était le cas de ces personnalités religieuses de l'époque. Et je trouve que c'est une pensée effroyable, terrible. Priez pour que moi je ne tombe pas dans ce piège en tenant Dieu à distance. Et puis il y a une troisième réaction. Jean-Baptiste ne restera pas longtemps seul. Des disciples se joignent à lui, profitant de son enseignement, profitant de son exemple, prolongeant son ministère. Des disciples qui vont essaimer jusqu'à Éphèse, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Et parmi ces disciples, certains vont devenir les tout premiers disciples de Jésus, André et Simon-Pierre, Jean le fils de Zébédée. Oui, Jean-Baptiste a vraiment préparé le chemin. Il a rempli la mission que l'ange avait annoncée à son père en disant « Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. » Jean-Baptiste a eu cette mission-là et il a tenu ses engagements, il a tenu ses promesses. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Jean-Baptiste est un vrai héros de la foi, un vrai prophète, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et pourtant, et c'est là où nous revenons sur le passage que j'ai lu au début, pourtant, il y a peut-être pas des ombres au tableau, mais il y a un certain nombre de nuances que je vais essayer d'indiquer maintenant. On a déjà dit que Jean-Baptiste était contesté par les autorités religieuses. Mais le plus grave, c'est qu'il a été arrêté par le roi Hérode Antipas, qui était le fils de celui qui a tué les enfants de Bethléem. Au moment où nous lisons Matthieu 11, Jean se trouve en prison. Il est menacé de mort parce qu'il a dénoncé le mariage incestueux de ce roi. Il avait épousé sa belle-sœur. Et le fait qu'il se trouve en prison me fait dire que réussir la mission que Dieu nous confie ne nous met pas à l'abri de coups durs, d'injustices, de persécutions. Cet homme, béni de Dieu, s'est trouvé en prison et il a fini par être décapité pour satisfaire la vengeance d'une reine. On peut donc être des hommes et des femmes de foi, tout à fait dans le plan de Dieu, et malgré tout souffrir. À cause de cela, souffrir. Première nuance, si vous imaginez un ministère béni comme étant toujours dans le bonheur, ce n'est pas forcément vrai. Deuxième nuance, ce grand prophète, cette voix qui crie dans le désert, il a fini par avoir des doutes. Depuis sa prison, il envoie deux de ses disciples pour interroger Jésus. « Es-tu celui qui devait venir ?» Ou devons-nous attendre un autre? Je paraphrase. « Es-tu celui qui devait venir comme je l'ai dit, comme je l'ai prêché, comme je l'ai annoncé? Ou est-ce que je me suis trompé? Est-ce que nous devons attendre plutôt quelqu'un d'autre ?» Jean-Baptiste avait certainement, comme ses contemporains, son idée de ce que le Messie devait être. Et ce qu'il entend de Jésus ne correspond pas à l'idée qu'il a dans la tête. Dans les paroles de Jésus, il n'y a pas un mot sur ces horribles Romains qui occupaient le pays. Il n'y a pas un mot sur David et le règne d'un formidable successeur qui installerait sa puissance à Jérusalem. Il n'y a pas d'organisation politique. Il n'y a pas l'ébauche d'une armée. Il n'y a aucun appel à l'insurrection. Le jugement du monde, non, ça ne semble pas être si imminent que ça. Et peut-être que Jésus n'est pas vraiment le Messie. Celui qui vient après moi, dit Jean, est plus grand que moi. Mais Jésus est-il vraiment plus grand? Un prophète, certes. Et même un prophète qui attire plus de disciples que Jean. Mais est-il vraiment le Messie? Et dans la solitude de sa prison, Jean doute. Si le Messie est vraiment venu, pourquoi est-ce que je croupis ici? Jean savait qu'il était la voix qui crie dans le désert pour préparer la venue du Seigneur. Il s'est inscrit dans cette perspective. Je crie, j'annonce celui qui doit venir. Et il se voyait dans la prophétie d'Ésaïe qui en parle. Mais est-ce qu'il avait compris tout ce qui concerne la mission du Messie à venir? Il se pose des questions, il se demande s'il ne s'est pas trompé. Ce qui m'amène à dire ceci pour nous autres. Douter et se poser des questions, c'est tout à fait normal. Mais il faut être en mesure d'entendre la réponse. Et la réponse que Jésus fait à ces deux hommes que Jean a envoyés, sa réponse est un peu décalée. C'est décalé par rapport à ce que Jean avait annoncé. Rien sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, rien sur un peuple qui serait baptisé de l'Esprit. C'est décalé par rapport aux prophéties concernant un nouveau David que nous lisons souvent à Noël. C'est une allusion à des textes d'Ésaïe qui parlent tantôt d'un nouvel exode, tantôt du serviteur rempli de l'Esprit qui annoncera une bonne nouvelle aux pauvres. Et peut-être que Jean n'avait pas tout à fait compris tout ce que cela voulait dire. Les miracles de Jésus ne sont pas le signe d'un bouleversement politique ou d'une année de jugement. Les miracles de Jésus sont l'annonce d'un temps de grâce, de guérison physique et spirituelle, d'un royaume qui est déjà là, incognito, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et en entendant cette réponse que ces envoyés ramènent, Jean devait réfléchir. Ma vision était déjà juste sur bien des points, mais elle avait besoin de s'élargir encore. Il y avait des dimensions que je n'avais pas tout à fait captées. Et pour nous, alors, on peut se mettre dans cette situation et se dire, des questions, oui, des doutes peut-être des réponses inattendues de la part de Dieu et une meilleure compréhension possible. Un appel de la part du Seigneur à vivre la foi dans l'épreuve. L'expérience de Jean-Baptiste peut aussi être la nôtre. Et la troisième nuance et le dernier point, c'est ceci à propos des propos de Jésus, Matthieu 11:11. Il n'y a jamais eu de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Ah, ça, c'est pas peu dire. Si Moïse était un prophète, si Abraham était un prophète, si Ésaïe et Jérémie étaient des prophètes, il n'y a jamais eu de prophète plus grand que Jean-Baptiste. C'est extraordinaire, ce témoignage. C'est le nouvel Élie. Et nous avons dit que Jean-Baptiste était un héros de la foi. Mais Matthieu 11:11 ajoute ce commentaire qui change tout. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment est-ce possible? Vous vous voyez comme étant plus grand que Jean-Baptiste? Moi, certainement pas. Mais Jésus dit que nous autres, les plus petits dans le royaume des cieux, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Comment est-ce qu'on peut dire ces choses, entendre ces choses? C'est que Jean est à la charnière de deux mondes. Il est le dernier représentant de la loi et des prophètes. Et après, tout est nouveau. La plénitude de la grâce et de la vérité est venue en Christ. Ça, c'est l'évangile de Jean. Et ce Jean, l'évangéliste, dit, nous avons tous reçu de sa plénitude, de la plénitude de la parole faite chair. Tous nous avons reçu de sa plénitude. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est vraiment énorme. La grandeur de Jean consistait à s'effacer. Il dit, lui, Jésus, doit devenir plus grand et moi de plus en plus petit. Jean, c'est le précurseur, c'est le messager, c'est le préparateur des chemins. Mais après lui, c'est le roi qui vient. Cela a été annoncé à Zacharie, son père, à peu près un an avant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est à cause de cela, c'est parce qu'il est le préparateur des chemins, celui qui annonce le roi à venir. C'est pour cela qu'on parle de lui le troisième dimanche de l'Avent, parce que le meilleur est à venir. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te remercier pour ce que nous pouvons apprendre de Jean-Baptiste, de son message, de sa vie, de son expérience, de sa foi, de ses hésitations, de ses épreuves. Merci pour la présentation de ce témoin. Mais merci surtout pour celui qui vient, celui qui est plus grand, celui qui baptise de l'Esprit, celui qui est notre Seigneur Jésus, venu sur notre terre à Noël. Aide-nous, Seigneur, à être dans notre vie, dans nos pensées et dans nos prières, à la hauteur d'un message si magnifique. Amen.